Philippe Liénard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu au salon maçonnique du livre à la Bellevilloise pour présenter déjà vos livres que vous avez déjà publiés. On vous a entendu sur Radio Delta sur l'émission sur l'islam et la franc-maçonnerie. Et là vous avez un livre en préparation qui s'appelle Opus Dei, origine, relation avec la franc-maçonnerie, projet, pouvoir réel dans le monde et en France. Un gros titre, hein, c'est long. Hein. Il y a tout ça. Donc on parle de tout ça dans ce livre. Alors c'est quoi l'Opus Dei ?
Alors l'Opus Dei, d'abord, c'est un mouvement de pensée qui ne s'est pas appelé comme ça du tout au départ, puisque ce serait né en 1928 en Espagne, idée d'un certain Escrivá de Balaguer qui ne supportait pas un certain nombre de dérives qu'il considérait lui comme des dérives de l'Église catholique et qui voulait en revenir par un mouvement qui était un chemin de sainteté aux premières valeurs des premiers chrétiens, en permettant à chacun de choisir, en revivant les souffrances du Christ, en permettant à chacun de devenir plus saint demain qu'hier. Et donc cet Opus Dei au départ avait pour vocation de permettre à toutes les personnes qu'il souhaitait d'effectuer un chemin de perfectionnement, non pas dans la liberté de penser, mais dans le dogme du respect le plus pur des valeurs d'un petit livre qui s'appelle Camino, mais qui n'a été publié qu'en 1939, sans d'ailleurs ni l'obstat de l'Église. Et dans ce Camino, en 999 maximes, pourquoi 999, c'est tout à fait volontaire, c'est l'inverse de 666.
C'est bon, qu'on connaît bien en franc-maçonnerie, voilà. Parce qu'on pratique le culte de la bête.
Disent certaines mauvaises langues. Et donc voilà, ce Camino a engendré un mouvement qui s'est très fortement étendu juste après la Seconde Guerre mondiale, dans le monde entier, en gros, sauf dans les pays musulmans. Et sauf dans certains pays qui résistent un petit peu. Mais c'est vrai que l'Opus Dei s'est étendu partout. Aujourd'hui, l'Opus Dei, c'est 90 000 personnes recensées dans l'annuaire pontifical comme étant des numéraires, des surnuméraires. Mais on ne connaît pas le nombre de coopérateurs, qui est beaucoup plus important.
Et alors, quel est le lien ? On vous connaît comme auteur, entre guillemets, maçonnique. C'est-à-dire, vous écrivez des livres sur la franc-maçonnerie. Vous avez écrit la franc-maçonnerie des Belges, en particulier. Et quel est le lien, justement, entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie ? Alors, mais des liens, qu'on sorte un peu des théories du complot, où tout est dans tout, etc. C'est quoi les liens historiques et réels entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie ?
Alors, je vais dévoiler quelque chose qui peut être un petit peu interpellant. Il n'y a pas de lien officiel entre la franc-maçonnerie et l'Opus Dei, si ce n'est que, un, certains appellent l'Opus Dei une franc-maçonnerie blanche, alors qu'il ne s'agit absolument pas d'une franc-maçonnerie, et je le démontre à travers le livre. Et d'autre part, en franc-maçonnerie, s'il y a des membres de l'Opus Dei, et il y en a probablement, ça ne peut être que des coopérateurs. Pourquoi ? Parce que les autres, ce sont des personnes qui sont dans une situation dogmatique et de vie spirituelle qui ne permettrait aucunement qu'ils puissent participer à une vie maçonnique. Mais parmi les coopérateurs de l'Opus Dei, ça n'est pas un secret qu'il y a aussi des francs-maçons. Et je n'ai pas utilisé ce livre pour donner en pâture des noms, mais il y en a dans l'histoire de France.
Alors dans la quatrième de couverture de votre livre Apparaître, hein, je rappelle, c'est aux éditions des éditions Jourdan, ça paraîtra quand ?
Fin décembre, peut-être début janvier, selon les congés des imprimeurs.
Très prochainement. Vous écrivez à la fin, il se veut transparent, explicatif, et il n'est pas destiné à rassurer. Est-ce qu'on devrait être inquiété de l'Opus Dei ?
Je pense qu'on peut être inquiété de l'Opus Dei par sa puissance et ses ramifications financières, mais je ne pense pas qu'on puisse être inquiété par l'Opus Dei sous l'angle de son influence. L'Opus Dei a eu une influence assez importante au sein de la curie romaine lorsque Jean-Paul II, en 1978, est devenu pape. Pape qui a d'ailleurs choisi comme responsable de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est l'héritière de l'Inquisition, un certain Joseph Ratzinger, dont on a entendu parler par la suite, pape qui avait comme secrétaire particulier le porte-parole de l'Opus Dei, pape dont la campagne a été, semble-t-il, financée par l'Opus Dei, pape qui a habité pendant plusieurs mois avant son élection dans la prélature de l'Opus Dei à Rome. On n'a pas, à mon avis, de raison de s'inquiéter de l'Opus Dei aujourd'hui sous l'angle de son influence dans l'Église, si ce n'est que Et ça, c'est intéressant. Et j'en parle dans le livre. Le pape François, qui est un jésuite, comme tout le monde le sait, qui est un homme qui vient d'Argentine, comme tout le monde le sait, n'est pas devenu pape totalement par hasard. Dans l'Église apostolique romaine, rien ne se fait totalement par hasard. Il y a de la politique aussi. Et si ce pape-là l'est devenu, il est le premier jésuite à devenir pape, d'ailleurs. Si ce pape-là l'est devenu, c'est parce qu'il y a eu un accord entre les membres de l'Opus Dei et l'ordre des jésuites qui se font une sorte de guerre depuis le début pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer là à l'antenne.
Alors, on les découvrira dans le livre, donc on attend avec impatience. Donc je rappelle, c'est Opus Dei, origine, relation avec la franc-maçonnerie, projet, pouvoir réel dans le monde et en France, par Philippe Quénard aux éditions Jourdan. Merci Philippe.
Je vous remercie.